21h passées de quelques secondes sur Radion. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour un nouveau numéro de Wagon Livre, votre émission littéraire. C'est d'ailleurs ce soir le 290e numéro, un numéro que nous allons passer en compagnie d'un romancier, Étienne de Montetti. Étienne de Montetti, si vous vous procurez le Figaro littéraire chaque jeudi, eh bien vous le connaissez puisqu'il est le directeur du Figaro littéraire. Il est l'auteur de plusieurs biographies, notamment une consacrée à Thierry Monnier, mais il a aussi fait paraître deux romans il y a quelques années chez Gallimard. Mentionnons L'article de la mort en 2009 et puis La route du salut qui a reçu en 2013 le prix des deux magots. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le tout dernier roman d'Étienne de Montetti qui a pour titre L'amant noir, disponible chez Gallimard. Et l'entretien que je vous propose ce soir dans votre wagon livre a été enregistré à Dijon le 22 février dernier, alors que l'écrivain Étienne de Montetti était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Vous savez, le Club des écrivains de Bourgogne, c'est un club qui s'est réuni chaque mois à Dijon, au Grand Hôtel de la Cloche, et qui accueille des écrivains de grande ampleur, des figures nationales de notre littérature, et qui sont accueillis donc au Salon Napoléon. C'est au Grand Hôtel de la Cloche, place d'Arcy à Dijon. Vous pouvez d'ailleurs venir assister à ces rencontres. Une petite participation est demandée, mais c'est l'assurance de débats de qualité et de réflexions toujours très pertinentes autour de la littérature et de la création littéraire. D'ailleurs, à ce sujet, concernant l'actualité du Club des écrivains de Bourgogne, le prochain rendez-vous est fixé au 21 avril, c'est-à-dire deux jours avant le premier tour des élections présidentielles, et le Club des écrivains de Bourgogne recevra le philosophe Pascal Bruckner pour son essai intitulé « Un racisme imaginaire, islamophobie et culpabilité ». C'est un essai qui est disponible chez Grasset. Mais ce soir, c'est Étienne de Montetti qui est à bord de Wagon Livre pour nous parler du personnage au cœur de son dernier roman, dont je rappelle le titre, L'amant noir. Très bonne soirée à toutes et à tous, c'est Wagon Livre sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Étienne de Montetti, bonsoir.
Bonsoir.
Je suis très impressionné et très, très fier d'avoir le directeur du Figaro littéraire devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire. Ça impressionne. Vous n'êtes pas impressionné, vous?
Écoutez, je suis très heureux de parler de mon livre.
Alors, votre dernier roman sorti en décembre de l'an dernier a pour titre « L'amant noir ». D'ailleurs, un petit mot sur le titre, parce qu'il peut se comprendre, je dirais phonétiquement, en deux termes, « L'amant noir », et quelque part en trois termes, « L'âme en noir ».
Oui, bien sûr. Un titre, ça s'impose, je ne sais pas comment, ça tombe mystérieusement, et après on en découvre le charme et les ressources, c'est vrai, donc ça peut être cette âme en noir, effectivement, qui est un peu l'état d'esprit de mon héros. Et puis l'amant noir, c'est un assez joli surnom qui est donné à l'opium. Et c'est un des thèmes du livre, que cet opium, cette drogue si littéraire qui a servi à tant d'écrivains à soigner ou à tenter de traiter leur mal d'être. Et j'ai trouvé dans cette confrérie des opiomanes qui, comme toutes les confréries, toutes les petites sociétés secrètes qui cultivent comme ça un culte un peu particulier, j'ai trouvé un vocabulaire assez savoureux, assez imagé, et parmi les termes qui désignent l'opium, il y a cette formule de l'amant noir que j'ai trouvé merveilleux, parce que je crois qu'il y a entre l'opium et l'opiomane une relation assez forte, qui est peut-être même un peu d'ordre sexuel, ne serait-ce que par la position dans laquelle on pratique l'usage de l'opium. Et ça donne évidemment à cet amant noir une connotation qui m'a énormément plu.
Alors ce roman, c'est le parcours d'un jeune homme qui a un magnifique prénom d'ailleurs, Fleurus. Fleurus Duclair, donc, qui naît dans une très bonne famille française, Saint-Cyrien, aspirant d'abord dans l'armée française, ensuite lieutenant, et amoureux fou de littérature et de poésie. Donc on le découvre au début du roman, en pleine occupation. Hein, c'est un homme de 40 ans. Si j'ai bien calculé, il est né en 1898.
Oui, c'est ça.
Si c'est ça. Et on le trouve sous l'occupation, désœuvré, en assez mauvais état, à la recherche d'une activité professionnelle. Enfin, c'est l'occupation, c'est la difficulté. Mais il y a un passé très glorieux de ce héros. Et ce passé glorieux, c'est celui de la guerre, d'une part. D'autre part, il y a aussi... c'est quelque chose presque de mythique pour nous Français, c'est l'armée coloniale, et c'est 1919, ce jeune lieutenant de l'armée française qui se retrouve à Constantinople après l'éclatement de l'Empire ottoman.
Oui, c'est l'histoire d'un homme, effectivement, Fleurus Duclerc, qui vient d'une famille de tradition militaire et qui, à ce titre, a lui-même choisi la carrière des armes, alors que probable que son caractère le poussait plutôt à aller effectivement du côté des lettres que de la carrière militaire. Et la guerre de 14-18, hein, puisque vous avez parlé de l'occupation de 40, mais 25 ans plus tôt, c'est la guerre de 14-18, et qui a été évidemment, comme pour des millions de petits Français, une fracture énorme. Il en sort blessé dans son corps, dans sa chair, mais surtout dans son être, dans son esprit. Dans sa famille, l'armée, c'était presque un statut social, un titre comme ça de noblesse. Pour lui, ça va être évidemment l'horrible front de la guerre, les bouts de champagne avec son cortège de drames. Et au fond de ce drame, de cette rupture, il va vouloir s'enfuir. Et c'est un homme en fuite. Alors la fuite, elle est de divers ordres. Et un des moyens de la fuite, c'est effectivement Constantinople, où l'armée française a eu, au lendemain de la guerre de 14-18, a eu une très très forte présence, puisque le général Franchet d'Espéret avait établi un camp d'occupation de Constantinople. En fait, pour faire simple, les puissances occidentales avaient occupé Constantinople, qui était effectivement un peu sur les ruines de l'Empire ottoman, qui n'avait plus que quelques mois ou quelques années à vivre. Et là, les soldats français, et mon personnage, Fleurus Duclerc, a découvert l'Orient tel que les peintres, tel que les poètes, tel que les romanciers l'avaient décrit, notamment le plus prestigieux d'entre eux à l'époque est Pierre Loti.
Un turc de profession, comme disaient ses détracteurs.
Exactement, exactement, mais qui effectivement écrivait à l'époque des livres sur une ville, un pays, une civilisation, l'Orient rêvé, l'Orient fantasmé, et qui se retrouve pour ce jeune Fleurus comme une espèce d'exact opposé de ce qu'il a connu en France, un pays pas tant de cocagne, mais de douceur, alors qu'il sort de la dureté, de la brutalité de la guerre, un pays ou une ville, Constantinople, très ouverte, c'est une société très cosmopolite à l'époque, avec des Italiens, des Grecs, évidemment beaucoup de Grecs, les Anglais sont là, les Français, les Turcs naturellement, les Levantins, comme on disait, ces vieilles familles occidentales qui vivaient là, et puis loin de la France, avec la structure sociale de l'époque. Et là-bas, il va essayer de se reconstruire une autre vie que celle qu'il estime étriquée, surtout douloureuse, et qu'il a connue en France.
Alors c'est l'Orient aussi voluptueux, hein. Il y a ces folles nuits de ce jeune homme, et on se promène, il y a tous ces... Alors vous qui tenez la rubrique aussi mots dans le Figaro, il y a tous ces mots, alors, dont certains d'ailleurs ont enrichi la langue française. Comme le mot « nouba » par exemple, j'ai appris que « nouba » était attaché à l'armée coloniale, et que faire la « nouba », c'était, comment dire, le concert que l'armée coloniale offrait quand elle arrivait dans une ville.
Exactement, quelque part.
C'est la
Nouba.
La
Nouba, c'était une sorte de concert, effectivement. Et puis, on découvre aussi qu'en Turquie, beaucoup, on parlait une sorte de français, des mots français avaient été intégrés. Pierre Loti, d'ailleurs, y a sa part. Un autre écrivain très oublié aujourd'hui qui s'appelait Claude Farrère. Tous ces écrivains ont tenté d'associer le meilleur de la langue française avec la civilisation turque. Et ça lui a donné, évidemment, à mon Fleurus Duclerc, le sentiment d'être dans une ville extrêmement familière. Il va y être heureux, il va y faire la fête, mais il va y aussi s'y adonner à des plaisirs qu'il aime, c'est-à-dire, par exemple, l'écriture d'un spectacle, une sorte de pièce de théâtre qu'il va composer, parce qu'il a cette tradition familiale et personnelle où on compose des vers, on compose des musiques, et puis on donne un spectacle, tout ça pour se distraire, et il s'y adonne avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y est, pour un temps au moins, très heureux.
Étienne de Montetti, à l'instant, dans Wagon Livre, qui évoque son dernier roman, L'âme en noir, paru chez Gallimard en décembre dernier. On marque, si vous le voulez bien, une première petite virgule musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes pour la suite de cet entretien enregistré en février dernier à Dijon, au Grand Hôtel de la Cloche, alors que l'auteur, romancier Étienne de Montetti, également directeur du Figaro littéraire, était l'invité du Club des écrivains de Bourgogne. Très bonne soirée, c'est Wagon Livre, on se retrouve dans un petit instant.
Y'en a qui lèvent des gosses au fond d'un HLM. Y'en a qui roulent leur boss du Brésil en Ukraine. Y'en a qui font la noce du côté d'Angoulême. Et y'en a même qui militent dans la rue avec tracts et banderoles. Y'en a qui ont peur plus de jouer les sex symboles. Y'en a qui vendent l'amour au fond de leur bagnole. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Y'en a 8 heures par jour qui tapent sur des machines. Y'en a qui font la cour masculine, féminine. Les bottes comme on lèche des vitrines. Et la même qui font du cinéma qu'on appelle Marilyn. Mais Marilyn Dubois sera jamais dans ma jean. Faut pas croire que le talent c'est tout ce qu'on s'imagine. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y sans jamais se faire de mal. Mademoiselle chante le blues. Soyez pas trop jalouse, mademoiselle boit du rouge. Mademoiselle chante le blues. Elle a du gospel dans la voix. Elle y croit. Mademoiselle chante le blues.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Je m'arrête à nouveau sur Pierre Loti. Loti décrit quelque part un barbier de Stamboul rasant le crâne de son client et ne conservant qu'une mèche, conformément à une tradition qui dit qu'elle permettra à Mahomet de le saisir à l'heure de sa mort. Et il y a une scène aussi où, alors c'est pas par la mèche que notre héros ne parvient pas à sauver un jeune homme du trou de boue dans lequel il va aller, c'est effectivement, il y a ces clins d'œil, il y a beaucoup de scènes comme ça qui se répondent dans le roman.
Oui, l'idée que la vie parfois ne tient qu'à un fil, qu'à un cheveu pour la description de Lottier, puis qu'il y a une main pour une histoire effectivement tragique qui se passe pendant la Première Guerre mondiale et où mon héros ne parvient pas à sauver de l'enlisement, de la noyade un de ses hommes et il en est durablement traumatisé, notamment par les cris de ce malheureux qu'il appelle à l'aide et qu'il ne parvient pas à sortir. Et ça fait partie des hantises que Duclerc veut fuir en gagnant les plaisirs d'Istanbul.
Alors c'est amusant aussi que son patronyme soit Duclerc, alors que finalement il est assez sombre dans sa tête.
Alors je n'y avais pas pensé. Il est toujours mystérieux le choix des noms, des prénoms dans un roman. Je ne sais plus très bien pourquoi j'ai choisi ce nom. Je sais ce qu'est ce nom, c'est une bourgade qui est du côté de Rouen, et j'aime beaucoup faire la chose suivante, c'est de me promener comme tout le monde en France et en voiture, et de noter, au sens propre et au sens figuré, des lieux, des toponymes, comme on dit, des lieux de ville ou des lieux dits dont la sonorité, dont la signification me plaisent, et j'avais depuis très longtemps noter cette ville, cette bourgade de Duclerc dont je ne sais rien, sauf qu'elle faisait pour moi un assez joli nom de personnage.
C'est plus charmant que Balzac qui allait dans les cimetières relever des prénoms et des noms de famille.
Oui, c'est vrai. Modiano, lui, je crois, consulte les annuaires. Moi, je fais beaucoup plus simple. Je regarde les noms de lieux de France.
Votre héros et votre roman couvre le thème des addictions. Je veux dire, il a plein d'addictions. L'addiction aux femmes, bon, les plaisirs, ça c'est normal. Je veux dire, il y a l'envie d'oublier la guerre, oui. Ça peut se concevoir. Mais il y a l'addiction à l'opium, qu'il va découvrir à Constantinople par le biais d'un Allemand d'ailleurs. Un Allemand que certains de ses amis jugent comme un horrible personnage qui cherche à affaiblir la France, et donc qui aurait une action un peu perverse qu'il faudrait dénoncer. Et puis, il y a l'addiction à l'Orient, il y a l'addiction à la poésie, à l'écriture, à la littérature. C'est un garçon qui est complètement dépendant de plein de choses.
Oui, mais comme il est en fuite, il est extrêmement vulnérable à toutes ces addictions que vous avez bien décrites, évidemment. Il cherche la voie, alors il les essaye simultanément ou successivement, en pensant que le salut viendra effectivement des femmes. Il va se marier, et puis après grand amour déçu, l'opium qui dans un temps, comme beaucoup d'addictions, le satisfait avant évidemment de le décevoir, et puis une addiction quand même plus sereine, c'était effectivement la littérature, puisqu'il écrit des vers, il écrit des romans, il va être déçu moins par la littérature que par l'accueil fait à ses livres, donc le monde littéraire, le monde de l'édition, l'univers qui nous réunit aujourd'hui autour de ce micro, l'accueil fait à un livre. Et la poésie qui, je pense, est le dernier de ses plaisirs qui, lui, jamais ne le décevra, puisque jusqu'à la fin de ses jours, dans l'occupation, dans les sombres jours de l'occupation, il trouvera encore le loisir de réciter de la poésie pour le simple plaisir de chanter les beautés des vers français.
Et durant la Grande Guerre, la poésie a eu un rôle salvateur pour lui. Hein. Je vous cite Étienne de Montetti, « Au front, il ne fut pas un jour sans que j'eusse recours à la poésie. Elle me servit de remontant, comme à mes hommes, leur quart de mauvais vin. »
Oui, alors, je me suis très immodestement transposé pendant mon service militaire, période qui n'avait évidemment rien à voir avec la guerre qu'ont pu connaître nos grands anciens. Je me souviens très bien qu'il y avait une chose qui m'inquiétait, c'était l'idée d'être coupé des livres, et j'avais une anthologie de la poésie dans la poche de mon treillis, et dès que j'avais quelques minutes, je sortais ce livre et je lisais pour moi de la poésie dans un environnement évidemment qui était assez peu propice à ça, et entouré de gens qui n'étaient pas forcément très sensibles à Nerval ou à Lamartine, mais j'ai un très grand souvenir de bonheur de ces lectures un peu impromptues.
Et puis bon, l'idée de s'enivrer ivre, il faut toujours être ivre.
Oui.
C'est aussi un grand credo baudelairien. Ouais. D'ailleurs, quand il voit des soldats amputés, il ne peut s'empêcher à penser au dernier jour de Rimbaud.
Rimbaud, oui.
D'ailleurs, il va même réciter en guise d'oraison funèbre l'épitaphe de Bilitis. Alors Pierre-Louis, là aussi, voilà encore quelqu'un qui fait penser à votre héros, parce que Pierre-Louis, lui aussi, c'est une sorte de descente en enfer,
c'est
un
vrai
peu comme notre jeune Duclerc.
Oui, ce destin, il l'épouse et il le choisit, cette déchéance. Il a ses modèles, effectivement. Et puis, il pense trouver la voie du bonheur ou du bien-être à travers leur modèle. Évidemment, il est un peu déçu. Mais la poésie, pas forcément la condition de poète, la poésie va le nourrir jusqu'à la fin.
Alors la poésie, c'est Chénier aussi qui est Chénier, très présent, puisque Chénier a beaucoup chanté Constantinople. Alors Chénier, qui lui aussi est une victime de l'histoire, et quelque part, c'est votre vrai. Héros, je ne lui en dis pas plus, est quelque part aussi victime de l'histoire, de l'histoire avec un grand H.
C'est vrai, c'est vrai. J'ai voulu qu'il aime et qu'il lise Chénier, parce que Chénier est une des grandes figures littéraires de Constantinople, parce qu'il est natif de là-bas. Je suis allé voir la maison de Chénier, qui est d'ailleurs en fort mauvais état à Constantinople. C'est plutôt un clin d'œil à l'attachement à Constantinople que son destin ultérieur, me semble-t-il. Mais Loti, Claude Farrère, André Chénier, c'est les grandes figures littéraires françaises d'Istanbul, parce qu'il faut le nommer maintenant Constantinople, Istanbul.
Si vous le voulez bien, Étienne de Montetti, on marque une nouvelle pause à bord de notre wagon-livre. Vous êtes ce soir devant le micro de l'émission littéraire de Radion. Nous parlons de L'Amant Noir, roman donc paru chez Gallimard en décembre 2016. Bonne soirée à toutes et à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous écoutez Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Nous sommes ce soir avec Étienne de Montetti pour son roman intitulé L'âme en noir et disponible en librairie aux éditions Gallimard. Alors Étienne de Montetti, dans ce roman, bien sûr, l'opium occupe une place extrêmement importante. Les femmes sont également très présentes dans ce roman. Elles jouent un rôle important dans la vie du lieutenant Duclair. D'ailleurs, celui-ci dit... En parlant de l'opium, ma dose quotidienne d'opium me manquait plus cruellement que la peau de velours d'Artémis. Alors, on a vraiment l'impression que la relation entre votre héros et l'opium est une relation sensuelle, presque amoureuse, faisant concurrence à la femme de sa vie.
Moi, je le crois. C'est une théorie un peu personnelle. Il me semble que la proximité d'un être avec l'opium a quelque chose d'addictif, bien sûr, mais presque de sexuel. Genre juste pour preuve, la position qu'on prend, on se couche, on s'abouche, je ne veux pas aller trop loin dans l'analogie, mais il y a quelque chose d'assez fort. Et puis aussi cette envie de retrouver l'extraordinaire extase que procure ne serait-ce que la première fois ou la deuxième fois l'opium, et que l'opiomane va chercher jusqu'à la fin, quelque chose finalement qui est assez comparable à ce que peut être une relation sexuelle.
Les lieux évoluent sans cesse dans le roman. Bien sûr, c'est le front en Champagne, hein, la Première Guerre mondiale. Ensuite, Constantinople, là, c'est la sensualité d'un Orient. Il y a une scène magnifique où votre héros boit du champagne dans un escarpin de femme avec je ne sais plus quel autre homme.
Un de ses camarades.
Ses camarades, ouais, il y a une course.
De bamboche, ils font un concours. Oui, ça, c'est la vie de soldat, telle qu'on se l'imagine, effectivement. Là encore, loin de France. Tous ces soldats, ça donne à des plaisirs. Et à l'époque, arrive à Constantinople les Russes blancs qui sont chassés par la Révolution, et les Russes amènent énormément d'argent, et puis alors une inventivité pour faire la fête absolument inouïe. Et j'ai imaginé, ce qui était certainement probable, rencontre entre les officiers français un peu avides de fête avec des colonies russes qui, comme on le sait, quand ils font la fête, ne la font pas à moitié.
Et ce qui est aussi formidable, c'est que vous faites renaître le Paris Montparnasse des années 1920. Il y a un moment, votre héros et sa jeune épouse font un arrêt par Paris, enfin pour retrouver la maman, la baronne Duclair, ouais. Qui voit d'un très mauvais œil d'ailleurs que son fils se soit entiché d'une turque, mais pas n'importe quelle turque.
C'est vrai, mais pour la bonne société française des années 20, l'horizon s'arrêtait, à mon avis, au bout du département. Il est probable que même au-delà, c'était déjà un peu exotique de se marier dans une autre région que la sienne. J'exagère un tout petit peu, mais à peine. Quant à imaginer qu'on aille se marier à Constantinople, là je pensais à quelque chose d'assez baroque. Et les critères, je dirais, socioculturels et religieux de l'époque font que ce type de mariage devait être un peu considéré avec méfiance. Et c'est pour ça que Duclair a avec sa mère une relation à la fois extrêmement forte, parce qu'au fond c'est une femme qu'il aime infiniment, à qui il n'a pas su suffisamment dire qu'il l'aimait. Elle est peut-être la femme de sa vie, et les amours qu'il a avec d'autres femmes, et notamment Artémis, effectivement cette jeune grecque de Constantinople, ne sont un peu que des succès d'années qui ne sont jamais à la hauteur de l'amour un peu admiratif et un peu déçu que le petit garçon, le petit Fleurus a pu avoir pour sa mère.
Alors peut-on dire que Fleurus Duclair, ce jeune lieutenant qui va épouser une jeune turque, est-ce qu'il incarne une certaine noblesse au bord de la décadence? Ou la fin d'une certaine catégorie sociale?
Oui, il est la fin d'une société, qui est la société effectivement aristocratique, qui ne se remettra pas de 14-18. Aussi bien sur le plan de la fortune que sur le plan de l'évolution de la société. La société moderne arrive très très vite et fait que l'aristocratie est balayée par une autre société qui arrive, qui est la société moderne. Et d'une certaine manière, sa déchéance, ne serait-ce que par le fait qu'il est obligé de travailler, ce qui est un peu nouveau dans une certaine société. À l'époque, on vivait de revenus agricoles ou de revenus immobiliers depuis toujours et pensait-on pour toujours. Et tout d'un coup, le monde devient beaucoup plus mouvant, beaucoup plus mobile, beaucoup plus incertain. Et il y a donc toute une société qui doit se réinventer sous peine de mourir. Et lui, d'une certaine façon, prisonnier de ses fantômes, de l'histoire de sa famille aussi, ne parviendra pas véritablement à se rétablir et mourra.
C'est un héros qui, quelque part, se suicide à l'opium dans une Europe qui a commencé à suicider avec la Première Guerre mondiale.
Oui, et la deuxième n'arrangera pas les choses. J'ai imaginé ce personnage né du monde ancien, finalement, du monde de l'avant-guerre. Son enfance, elle est peu ou prou dans le monde de Proust. Les beaux quartiers, société un peu insouciante. La Première Guerre est évidemment un choc terrible. Proust le raconte très très bien. L'entre-deux-guerres est très très difficile. Et puis la Deuxième Guerre mondiale, l'occupation allemande, tout ça, ce sont des séismes dans cette société. Et j'ai imaginé un garçon né au début du XXe siècle et vivant ou apprenant les échos de Hiroshima et Nagasaki, c'est-à-dire l'irruption d'une humanité qui est capable de se suicider absolument dans son intégralité. Pour un garçon comme lui, c'est trop dur. Finalement, ça l'abîme, ça le défait complètement.
Et il a du mal aussi à trouver sa place dans cette société.
Voilà, parce que, d'abord par le travail, il est rentré dans l'armée, comme je le crois, beaucoup, beaucoup de jeunes le font par tradition familiale, sans imaginer que c'était même un métier, c'était finalement un état social, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quant à travailler pour gagner sa vie, je pense que pour un petit monde, ça a été très très difficile. On avait l'impression de se commettre, un petit peu de déroger, comme on disait dans l'Ancien Régime. Et ce monde qui change, pour lui qui est un homme sensible, qui a pensé probablement vivre des beaux-arts, de poésie et de littérature, ce monde difficile dans lequel il faut survivre pour ne pas mourir, c'est un monde très très dur et trop dur pour finalement y être heureux. Et sa descente aux enfers, c'est celle d'un garçon qui n'était pas armé non plus pour le monde moderne avec sa dureté.
Ce que j'ai trouvé aussi formidable, c'est la liberté de la jeune Artemis Démétrios. Elle est orthodoxe. Oui. Elle est orthodoxe, on est d'accord. Hein, c'est pas baignée de culture de la Turquie musulmane. Elle est orthodoxe, c'est issue quand même d'une vieille famille de la ville. Elle sort quand même de la maison d'éducation de la Légion d'honneur. Bon, c'est pas banal. Mais elle a envie de croquer la vie à pleines dents. Elle aime la nuit, elle aime faire la folle, elle aime les hommes, elle aime s'amuser. C'est aussi une envie de plaisir, quoi.
C'est vrai. Il y avait à Constantinople et probablement dans d'autres villes de la Méditerranée, Alexandrie aussi, de ces sociétés à la fois très occidentales par leur éducation, effectivement, les jeunes filles de la bonne société levantine, comme on dit à l'époque, le mot est un peu vieillot, pouvaient être élevées dans les meilleurs collèges, les meilleures pensions en France, notamment la Légion d'honneur, pour des gens de Constantinople qui étaient des membres de la Légion d'honneur, et avec des histoires qui se confondent avec l'histoire de l'Europe, où il y a la Turquie. Cette histoire que je raconte, elle m'a été racontée par quelqu'un que je connais bien, et qui est l'histoire vraiment de l'Europe, où se mêlent les intérêts allemands, les intérêts anglais, les intérêts français. Donc il y a eu des hommes en Turquie qui ont eu des vies absolument rocambolesques, et leur famille est à la fois était très enracinée à Constantinople, ville d'Orient, très occidentale aussi, donc un mélange de traditions historiques très fortes, et puis aussi, je dirais, loin des conventions occidentales, et vivant un peu sur un autre mode, très différent, et qui est un mélange de grandes traditions, de grandes fantaisies. S'ajoute un tempérament que j'ai trouvé amusant, qui est celui d'une jeune fille qui a tout simplement envie de s'amuser éperdument, et qui, effectivement, ne boude pas son plaisir.
Et effectivement, c'est ce qui ne plaît pas du tout à la baronne du Clerc, cette jeune fille qui lit en plus Fémina, alors qu'elle est abonnée à l'illustration.
Oui, alors là, c'est aussi un peu deux mondes et deux époques. Ça m'amusait d'imaginer l'irruption de la modernité. Une jeune fille qui sort seule, qui s'habille différemment de la génération qui l'a précédée, et puis qui a effectivement des mœurs qui, aujourd'hui, ne nous étonnent plus, qui est de lire un journal féminin, chose qui, à l'époque, à mon avis, chez mon arrière-grand-mère, par exemple, devait être le comble, sinon de la vulgarité, de la transgression.
Et cette histoire du, du décolleté de la victoire. Vous l'avez inventé ou c'est une anecdote authentique?
Mais je ne sais plus du tout, j'ai trouvé ça, mais ça m'a beaucoup amusé. Je ne sais plus. Je sais que ça repose sur un jeu de mots avec, avec les reins.
Ça descend jusqu'au
rein. Ça descend jusqu'au rein, voilà, R-H-I-N ou R-E-I-N-S. J'ai dû lire cette anecdote quelque part et puis j'ai inventé cette scène où effectivement Artémis Duclerc apparaît dans le salon de sa belle-mère avec une tenue magnifique, extrêmement élégante, mais un peu osée. Et il y a le choc de deux cultures, la société versaillaise un peu conventionnelle et un petit peu stricte, et puis cette jeune fille ravissante et extrêmement audacieuse dans ses tenues.
Jeune fille, en effet, audacieuse et ravissante, Artémis, donc, qui deviendra l'épouse du héros narrateur du roman de notre invité, Étienne de Montetti. Le roman a pour titre L'âme en noir et il est disponible aux éditions Gallimard. Nous marquons une nouvelle pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes, toujours à bord de Wagon Livre sur Radion, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h sur Radion avec notre invité, le romancier et directeur du Figaro littéraire, Étienne de Montetti. à l'occasion de son dernier roman qui est sorti au mois de décembre dernier, mais qui est toujours disponible en librairie. Vous le trouverez sous le titre L'âme en noir et il est paru aux éditions Gallimard. Étienne de Montetti, page 81. Nous nous promenons dans Constantinople et il y a à cette page-là la découverte par notre jeune lieutenant, découverte d'une citerne. La citerne était une immense salle souterraine soutenue par des colonnes que je visitais en barque conduite par un jeune turc. Alors Étienne de Montetti, en quoi consiste cette citerne de Constantinople ?
Il y a une immense citerne qui était vraiment un réservoir d'eau à Constantinople, qui existe encore et qu'on visite aujourd'hui, que j'ai visité, et qui est un endroit tout à fait stupéfiant. C'est une salle avec des colonnes et qui est remplie d'eau et qu'on peut, dans laquelle on peut évoluer. Il me semble qu'il y a des scènes connues. Il n'y a pas un James Bond qui se passe à cet endroit. Il me semble que c'est un endroit connu de Constantinople. J'ai un film qui est associé à ce lieu absolument enchanteur. Et effectivement, j'ai inventé une promenade en barque, hein, presque mythologique, avec un Turc qui promène le lieutenant du clerc. Et il y a notamment une colonne un peu mythologique, comme il y a beaucoup d'endroits où il faut mettre la main et ça porte bonheur. Et Duclerc est effectivement confronté à cette religion, du moins cette culture faite à la fois de croyances et aussi de mythes.
Et lui refuse, hein, le lieutenant refuse de mettre la main dans l'orifice qui lui promettrait bonheur, santé, fertilité. Et le jeune Turc lui dit, oh, formidable, le jeune Turc lui répond, tu as tort, ce qu'il y a de plus beau dans le monde, c'est ce qui est inexplicable.
Oui, il est vraiment l'esprit occidental quand il arrive à Constantinople, donc il ne veut pas succomber à toutes ces croyances et traditions qui sont pourtant le sel de la vie, le sel de l'existence. Et les orientaux ont beaucoup plus que les occidentaux, ont le goût de ces histoires qui ne sont pas explicables, mais qui évidemment donnent une poésie merveilleuse à la vie.
Étienne de Montetti, vous avez placé en exergue à votre roman, alors c'est de la prose baudelairienne, « Le poète est devenu fou, la muse ne lui envoie plus que des rimes insensées, malédiction ». Et bien sûr, tous les poètes du 19e siècle ont été un peu des poètes maudits. Bon, on parlait de Nerval aussi qui apparaît. Enfin, il y a une citation, il y a un nombre de poètes de référence. Albert Samin, Albert Samin qui a été apparemment le poète, le poète phare de notre héros, mais qui aujourd'hui...
Très oublié, être, oui. Oui, j'ai voulu, par ces citations, pas alourdir le livre, mais l'enrichir et le nourrir, en réfléchissant à ce qu'un jeune homme, donc mon héros Floyd Duclerc, élevé au début du XXe siècle, que lisait-il comme poète ? Parce qu'aujourd'hui aussi, on lit des poètes que peut-être nos petits-enfants trouveront désuets et vieillots. La postérité réserve toujours des surprises. Et donc, c'est un jeune homme qui commence à lire des poètes très à la mode à l'époque. Il y a Albert Samin, totalement oublié. Anan Noailles. Et Anan Noailles, on retrouve à nouveau Constantinople, parce que c'était une femme qui avait des origines à la fois roumaines, mais avec une partie de sa famille à Constantinople, qui était très très à la mode, qui était un poète, une poète extrêmement célèbre, qui vendait beaucoup beaucoup à l'époque, et puis d'autres poètes plus secrets, peut-être plus sulfureux dans la famille du clerc, mais effectivement les Baudelaire, les Nerval, les Gautier, alors qui eux, en plus, avaient vraiment un commerce régulier avec la drogue et avec l'opium pour certains d'entre eux. Et donc, Duclerc vit en familiarité avec ces poètes jusqu'à essayer d'épouser leur mode de vie.
Alors, il s'intéresse aussi, bien sûr, à la littérature. Il est abonné au Mercure de France. Et vous citez des tas d'écrivains, André Breton, alors là, Ernest Perrochon.
Il a eu le prix Goncourt, Perrochon. Mais là aussi, ça m'a amusé de citer des tas de gens dont certains sont restés, sont des gens qu'on connaît, évidemment, d'un Breton ou un Giroudoux. Et puis, beaucoup de noms qui ont été à l'époque des écrivains de leur temps et complètement oubliés. Et on l'observe, par exemple, quand on va dans une librairie d'occasion, chez un soldeur ou à Paris, sur les quais de la Seine, on voit des livres, parfois à plusieurs exemplaires, qui sont signés de gens qui ont été à l'époque des grands, peut-être pas des grands écrivains, mais des auteurs très courants et qui sont totalement oubliés. Et ce décalage m'a beaucoup intéressé et amusé.
Roland Dorgelès. Et alors j'étais très heureux parce que vous mentionnez Henri Bachelin, qui est né dans la Nièvre, alors dans le petit village de l'Homme, et qui est qui a dû avoir le Goncourt, je crois, dans les années 1900,
oui.
avant 1910. Enfin, des gens qu'on a un petit peu
oubliés,
mais qui...
Mais qui, effectivement, à l'époque, sont des auteurs tout à fait dans le coup. Et ce décalage par rapport à la postérité, qui est une question que je pose, puisque Duclerc, on n'en a pas parlé, mais Duclerc écrira, espérant aussi... comme ses grandes admirations vivent de sa plume, Duclerc va se plonger dans le monde littéraire, et c'est une question qu'il se pose, que je me pose, qu'on se pose tous. Voilà, on publie quelque chose, on ne sait pas bien ce qu'on va publier. Qui sont les écrivains à succès? Est-ce que ce sont les meilleurs écrivains qui ont du succès ou pas? Il y a toujours, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, le mythe de l'écrivain ou du poète maudit, qui est un classique du 19e siècle. Et donc... il tâtonne sur des écrivains et il a une discussion avec un de ses amis. À un moment donné, il se demande, voilà, entre Giraudoux et puis un nom qui ne dit plus rien à personne, mais qui à l'époque est l'égal de Giraudoux, qui des deux restera? Nous, en 2017, on donne la réponse, mais il y a un siècle, personne ne la donne, celle-là.
Alors, votre héros va faire paraître un roman, un premier roman chez Kalman Levy, qui était apparemment à l'époque une
grand éditeur.
Le grand éditeur.
Ah oui, Kalman Levy, c'est l'éditeur d'Anatole France, c'est l'éditeur de Maurice Barrès, c'est l'éditeur de Berlotti. C'est le grand éditeur des années 20. Il est à Pignon-sur-Rue, derrière l'Opéra, rue Aubert, mais il sera balayé par des tout jeunes éditeurs qui surviennent, qui s'appellent Bernard Grasset, Gaston Gallimard. Mais en entrant chez Kalman Levy, Fleurus Duclerc entre chez un grand éditeur, mais un petit peu comme est sa famille. C'est une grande maison qui vit un peu sur sa splendeur passée et qui ne sait pas que la déchéance est devant elle.
Alors c'est intéressant parce que Georges Kalman bavarde avec votre héros et lui dit les prix, c'est la légion d'honneur de l'écrivain. Et c'est aussi intéressant, il y a la définition d'homme de lettres. Hein, c'est page 147, bon, on n'a plus tellement de temps. Mais il y a cette réflexion, alors là je vous la soumets parce que le directeur du Figaro littéraire va forcément réagir. Pour écrire, il faut beaucoup donner à l'écriture, plus que son imagination ou sa science, il faut lui sacrifier une énergie intime, sa vitalité, tout son être peut-être. Alors vous sacrifiez tout cela, vous, Étienne de Montetti?
C'est pas à moi d'en juger, je sais qu'il faut beaucoup beaucoup donner et de son temps. L'écriture, effectivement, c'est plus qu'une activité, ça prend quelque chose de l'être, ça, j'en suis absolument persuadé, et il faut lui donner beaucoup, beaucoup. L'écriture, je pense, demande beaucoup, et on voit beaucoup de livres écrits par des gens qui, finalement, se contentent de faire des gammes sans donner suffisamment probablement à leurs livres, et ça donne des livres qui ne sont pas forcément toujours aboutis, mais écrivant moi-même un roman, je ne me permettrai pas de porter de jugement comme ça trop abrupt. Je crois que l'écriture demande beaucoup à celui qui s'y adonne.
Et c'est donc L'Amant Noir, le roman, le dernier roman d'Étienne de Montetti aux éditions Gallimard. Et puis alors, juste dernière citation, à un moment le lieutenant Duclerc se trouve à l'état-major, donc il est responsable du chiffre, il doit décrypter des messages codés, et il y a cette phrase, c'est lui qui la prononce: je savais que le plus beau cryptage de la pensée des hommes s'appelle la poésie. Merci Étienne de Montetti.
Merci beaucoup.
De nous avoir accordé de votre temps.
Merci.
Wagon Livre touche pratiquement à sa fin. Merci d'avoir été avec nous. Donc je rappelle les références du roman d'Étienne de Montetti. C'est L'Amant Noir aux éditions Gallimard. Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire et romancier, qui était ce soir l'invité du 290e numéro de Wagon Livre. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain, toujours sur Radion à partir de 21h, autour d'un essai qui a fait grand bruit, qui a été hautement remarqué et qui est signé de l'historien et essayiste Patrice Guénifet. L'essai a pour titre « Napoléon et De Gaulle, deux héros français », c'est aux éditions Perrin. Ce n'est pas une biographie, c'est une réflexion sur les deux héros préférés des Français, Napoléon Bonaparte et Charles de Gaulle, qui ont incarné la figure du sauveur. Et c'est une lecture extrêmement intéressante à quelques semaines du premier tour de nos élections présidentielles. En tout cas, si beaucoup de choses les séparent, à commencer par le siècle où ils vécurent, Bonaparte et De Gaulle ont en commun d'avoir élevé notre patrie au-dessus d'elle-même dans une quête de la grandeur nourrie d'une certaine idée de sa mission et de sa vocation à éclairer le monde. C'est au programme de Wagon Livre la semaine prochaine. Patrice Gagniffet, Napoléon et De Gaulle seront donc assis côte à côte sur les banquettes de votre émission littéraire. Je rappelle également que le 21 avril à Dijon, le Club des écrivains de Bourgogne recevra Pascal Bruckner pour son essai chez Grasset « Un racisme imaginaire ». Et puis ce week-end, ne manquez pas la fête du livre d'Autun qui fête ses 20 ans. Fête organisée par des passionnés de lecture, par l'association Lire en pays autunois. Plus de 120 auteurs seront donc présents sur ce salon à Autun, salle de l'Hexagone, les 7 et 8 avril prochains. 10 000 visiteurs sont attendus, sans oublier que l'an dernier, c'est plus de 4 000 livres qui ont été vendus. Alors parmi les invités, il y a des personnalités hautes en couleur et prestigieuses, notamment Axel Kahn, chercheur généticien, ancien membre du Comité consultatif national d'éthique, Alain Baraton, le jardinier en chef de Versailles. Il y aura également le dessinateur de presse Pancho, le dessinateur du Canard enchaîné qui fête, vous le savez, ses 100 ans, Bernard Thomasson, journaliste à France Info, écrivain, voyageur, marathonien et gastronome. Le dimanche, on annonce Alain Bougrain-Dubourg, journaliste et réalisateur de télévision qui, vous le savez, est un ardent défenseur de la cause animale. On annonce également Marcel Amon qui sera présent, Marcel Amon avec une carrière féconde dans le show business et qui est aujourd'hui devenu écrivain. Il est membre de l'Académie, Alphonse Allais. Il sera d'ailleurs présent. Jean-Pierre Mocky est annoncé également au Salon du Livre d'Autun. De même, sur le plan pour les gourmands, vous pourrez rencontrer le chef étoilé de Montceau-les-Mines, Jérôme Brochot, ainsi que Olivier Streff, vous savez, ce chef cuisinier gothique installé à Beaune, ancien candidat de l'émission Top Chef sur M6. Voilà. En tout cas, de très nombreux éditeurs bourguignons seront présents. Les éditions de Lanne Batté, les éditions de l'Armançon, les éditions Castellologie de Bourgogne, les éditions du Chemin de Fer, Denis Éditions, les éditions La Renarde Rouge, les éditions Mutine et les éditions universitaires de Dijon. Et puis, trois libraires partenaires de cette 20e édition du Salon du Livre d'Autun, la librairie La Mandragore de Chalon-sur-Saône, la librairie Plein Ciel du Creusot et la librairie La Promesse de l'Aube d'Autun. C'est donc un très très bel événement qui se profile. En tout cas, donc, c'est vendredi, dès le vendredi 7 avril, il y a une soirée impro et BD. Et puis le salon, lui, ouvre samedi 8 avril dès 10h, donc à la salle de l'Hexagone, c'est gratuit. Et le dimanche 9 avril également, on annonce aussi des débats, des tables rondes qui sont menées par la journaliste de France Inter, Patricia Martin, que nous espérons bien avoir à notre micro, puisque bien sûr nous irons réaliser des reportages et nous vous offrirons d'ici quelques semaines deux émissions de compte-rendu du Salon du Livre d'Autun. Pour ma part, il est temps de vous saluer et de vous remercier de votre fidélité. Merci à toutes et à tous. Excellente fin de soirée à l'écoute de Radion. Au revoir et à la semaine prochaine.